On 92.6 FM, on Radio Player and online at radioverulam.com, this is Community Radio for West Harts. 92.6 FM. It's the third Thursday of the month at 9 o'clock, and that's time for Bouche à Oreille, Radio Verulam's programme for Francophones and Francophiles. The next hour will be exclusively in French, so brush up your language skills and get ready for a taste of France with Aline Bavister and Geraldine Zielinski.
And welcome to Bouche à Oreille.
Bonsoir et bienvenue à Bouche à Oreille, avec vous de 21h à 22h tous les troisièmes jeudis du mois. Ouvrez vos oreilles.
Et ce soir, c'est encore Mélanie qui est sur l'intérim.
En effet, et Géraldine est chez elle. Elle reviendra nous voir. Mais avant de commencer cette émission, il faut absolument que nous vous présentions nos excuses pour la piètre qualité acoustique de la précédente. Une fois de plus, des ennuis techniques se sont glissés dans Bouche à Oreille. On est vraiment désolés.
Pour toutes nos excuses. C'est ça d'embaucher les intérimaires. Hein. Mais bon, aujourd'hui, c'est retour à la normale.
Oui, en partie. Mais enfin, pour être tout à fait honnête, cette émission est enregistrée. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir, Mélanie?
Alors, notre thème de la soirée est la solidarité et l'engagement caritatif. Kathleen, Anne et Rebecca nous feront partager leurs expériences et leurs projets. Puis, nous retrouverons toutes nos rubriques habituelles, panorama des actualités françaises du mois, nouvelles culturelles, des deux côtés de la Manche, l'origine des expressions avec Martin Clavier, et pour une rubrique lecture spéciale, n'est-ce pas Aline ?
Oui, tout à fait. Nous aurons la grande chance de nous entretenir avec Pierre Stas, auteur de La Nuit Pacifique, ouvrage dont Pierre Connet nous avait parlé le mois dernier. C'est une première sur Bouche à Oreille et nous en sommes ravis. Alors ouvrez grand vos oreilles jusqu'à 22h.
Aline, quoi de neuf en France alors ?
Alors écoute, je ne vais faire que survoler les actualités de ces dernières semaines, vu qu'on a un agenda absolument plein à craquer ce soir. Alors tout d'abord, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà dîné en cette heure relativement tardive, mais le premier sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les journaux de l'Hexagone ces jours-ci n'ouvre pas vraiment l'appétit. Il s'agit bien sûr du scandale des lasagnes 100% viande de cheval de chez Findus, dont on parle beaucoup également en Grande-Bretagne. Alors cette découverte a mis en lumière le système d'approvisionnement de l'industrie agroalimentaire et ce n'est pas très reluisant. En fait, 90% des autres marques de la grande distribution en France seraient touchées par ce scandale, vu que la viande hachée en question, venue de Roumanie, a été utilisée par nombre de grandes enseignes, via des sous-traitants multiples. Les produits Findus concernés ont été retirés de la vente et la société vient d'annoncer qu'elle va déposer une plainte contre X.
Comme quoi la cuisine faite maison, ça a du bon.
Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas prête de reprendre des plats tout près. Alors, les deux sujets dont nous avions parlé le mois dernier, c'est-à-dire le projet de loi sur le mariage pour tous et la guerre au Mali, continuent toujours d'occuper une place importante dans les médias français. Le projet de loi sur le mariage pour tous a été vivement débattu à l'Assemblée pendant 10 jours, avec une centaine d'heures de discussion, jalonnée par des dizaines d'interruptions de séances et des milliers d'amendements. À l'heure où je vous parle, nous ne connaissons pas encore l'issue du vote, mais le résultat sera révélé avant la diffusion de cette émission. Donc, nos auditeurs de ce soir en savent plus que nous.
Bon, c'est bien ça.
Une fois n'est pas coutume, faut bien le dire. Alors, au Mali, la situation s'embrase au nord du pays, dans la ville de Gao, qui avait pourtant été libérée il y a 15 jours par les forces françaises et maliennes. Les islamistes ont riposté, avec 2 attentats suicides et de vifs combats qui ont eu lieu dans les rues mêmes de la ville. L'armée française a bombardé un commissariat où se cachaient des islamistes et tout indique que cette ville d'importance stratégique restera encore pour quelque temps le théâtre des affrontements entre les islamistes et les soldats maliens et français. Côté sport, on parle bien sûr de la piètre performance du 15 de France au tournoi des Six Nations. Ils se sont fait huer d'ailleurs, hein, il faut bien le dire, car les Bleus ont énormément déçu jusqu'à présent. Bon, je finis sur une bonne nouvelle quand même, hein, en ski alpin. 47 ans après la victoire de Marielle Goitschel, Marion Roland vient d'être sacrée championne du monde.
Ça, c'est chouette.
Hein, ça tombe bien en cette période de sport d'hiver, il faut bien le dire.
Mais qu'est-ce qui t'a laissé bouche bée alors ?
Alors, on est au mois de février, on vient d'avoir la Saint-Valentin. Et donc, c'est une histoire d'amour sur fond de musique de notre pianiste blondine nationale préférée.
Attends, là, je suis un peu perdue. Tu peux préciser ?
Oui, alors je m'explique. Le zoo de Londres, soucieux d'encourager ses quatre tortues des Galapagos à s'accoupler afin d'enrayer l'extinction de l'espèce, a eu l'idée, il faut dire un peu saugrenue, de recourir au service de Richard Clayderman pour qu'il leur joue de douces mélodies romantiques et qu'il passe à l'acte.
Je ne le crois.
Oui, il faut le lire pour le croire. Alors malheureusement, les sérénades du pianiste n'ont eu aucun effet sur le mâle de 70 ans et les trois femelles qui ont gardé leur distance.
Que je les comprends.
Hein ? Donc voilà, donc conclusion, la musique de Richard Clayderman, c'est pas si romantique que ça.
Ouais, voilà. Je suis assez d'accord.
Voilà. Alors, on passe à la revue culturelle ?
Avec plaisir. Merci, Aline. Alors, côté spectacle, je voulais vous parler d'Olivier Giraud, qui est un comédien et qui présente son one-man show « How to become a Parisian in one hour », créé après une expatriation aux États-Unis. C'est un spectacle 100% en anglais.
D'accord.
100% humour français. En effet, pour le sujet, voici ce qu'il en est. Vous aimez Paris, mais vous pensez que les Parisiens sont impolis.
Attention, je suis parisienne, hein. j'aimerais quand même le préciser.
Néanmoins, vous avez raison, ils le sont. Vous êtes trop gentil et vous voulez devenir arrogant? N'attendez plus et assistez à la formation. Vous agirez ensuite en vrai Parisien dans les magasins, les restos, taxis, le métro, la boîte de nuit. Et vous comprendrez enfin les expressions faciales typiquement parisiennes. Donc ce spectacle est un véritable guide de survie pour apprécier Paris. C'est actuellement au Théâtre des Nouveautés à Paris, où il joue les prolongations suite à son succès, en effet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il viendra à Londres les 28 mars, 12 avril et 23 mai prochains au Leicester Square Theatre.
Theatre, darling, theatre. Voilà, c'est dur à dire.
Excusez-moi. Tous les renseignements sont sur son site Olivier Giraud, G-I-R-A-U-D, en un seul mot, .com.
Ça me dirait bien d'aller voir ça.
Ouais, moi aussi, ça me tente très bien. Je pense qu'on doit bien rire. Côté ciné, Les Misérables, dont j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans cette émission le nouvel opus,
ouais.
Et qui a récemment donc été récompensé au BAFTA. Tout comme, je dois te le dire, Aline, l'actrice Emmanuelle Rivard, pour le film Amour, qui a été sacrée meilleure actrice au BAFTA.
Fantastique, c'est une très très bonne actrice. C'est un beau sacre au tendre âge de 85 ans, 84 ans.
Exactement, quand il y en a d'autres qui partent à la retraite à 86.
Ouais. Sans commentaire.
Voilà. Arrive donc Les Misérables, je reviens, revenons à nos moutons. Les Misérables, donc, qui arrivent plus près de chez nous, hein, dans différentes salles, comme à Hatfield au cinéma de l'Odéon, à Saint-Alban à l'Arena du 26 au 28 février, et au Rex de Berkhamsted, où là je voulais préciser quand même qu'il y a une séance le 26 février à 12h30 pour les mamans avec des bébés. Donc tous les renseignements seront sur le blog dès demain et sur les sites internet. Nous avons également une petite pensée pour les métropolitains et nos impates qui nous écoutent. Donc pour les grands au niveau du cinéma, après avoir parlé de Manet le mois dernier, voici un autre impressionniste, mais qui cette fois est à l'écran, c'est Renoir.
Bah, il manque plus que Monet et...
Voilà, et on a fait
la boucle est bouclée.
Exactement. Donc ce film est un film Gilles Bourdeau, c'est avec Michel Bouquet et Christa Terré, et qui est essentiellement basé sur la fin de la vie d'Auguste Renoir. Il semble qu'il y ait quelques longueurs dans le film, mais les images sont tellement magnifiques et que, apparemment, à ceux qui savent le faire, donne envie de peindre.
Super. À vos pinceaux.
Exactement. Pour les enfants, il y a Jean de la Lune de Stéphane Chech, excusez-moi de la prononciation, mm-hmm. avec Katharina Thalbach et Tommy Ungerer. Tommy Ungerer qui est lui-même l'auteur de ce livre pour enfants qui est édité par la maison d'édition de l'École des loisirs. Le pitch, c'est Jean de la Lune qui s'ennuie tout seul sur la Lune.
Bah, il y a de quoi. Hein.
Voilà, il décide de visiter la Terre. Un jour, il s'accroche à la queue d'une comète et atterrit chez nous. Mais le président du monde est persuadé qu'il s'agit d'un envahisseur et décide de le pourchasser.
Wow, ça a l'air assez intense hein, quand même.
Exactement. Ensuite, un petit point sur les victoires de la musique dont nous avions qui ont été récompensées. Seule Camille, dont nous avions parlé, a été récompensée pour la meilleure chanson de l'année, donc qui est quand même pas mal. Sinon, les victoires ont vu le triomphe d'un collectif de DJ nantais qui s'appelle le C2C. Et qui, à lui seul, a reçu 4 récompenses. Il y a également eu 3 victoires d'honneur pour Véronique Sanson, Sheila et Enrico Macias. Vous retrouverez tout le palmarès sur notre blog dès demain.
Fantastique. Et à part ça ?
Eh bien, à part ça, je vais quand même finir par un peu de sport pour changer. Mmh. Avec ce qui fait s'exprimer au plus haut point la rivalité entre les Français et les Anglais. Vous pensez, je suis sûre, snooker ou fléchette? Eh bien non, voici le nouveau, donc, comme tu l'as précisé tout à l'heure, tournoi des 6 nations de rugby qui a démarré donc le 2 février dernier et qui s'achèvera donc le 16 mars prochain. On y retrouvera sûrement quelques expressions typiques telles que « le cochon est dans le maïs » ou « la cabane est tombée sur le chien ».
Oh, c'est beau ça, avec l'accent en plus.
Voilà. Et donc, bien évidemment, encore cette année, les esprits s'échaufferont forcément dans les chaumières avec le crunch.
Le crunch, c'est beau. Moi, ça me rappelle le chocolat quand même. Hein. Crunch, c'est quand même le chocolat qui croustille, il me semble.
Rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec le chocolat. Le crunch, c'est le nom donné à la mythique rencontre Angleterre-France.
D'accord.
Qui aura lieu donc le 23 février prochain.
Ça va chauffer dans les foyers.
Hein. Exactement. C'est souvent l'occasion dans les familles de déchirement incroyable, mais
surtout chez moi,
c'est que voilà, chez nous aussi, et ça se réconcilie à la fin, donc tout est bien. Mais comme on dit, hein, ne dit-on pas que le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen?
Tout à fait,
voilà,
tout à fait.
Moi, c'est fini.
Merci Mélanie. Eh bien, on se retrouve dans un tout petit instant.
Radio Verulam Community Partners.
People living with cancer or life-threatening illness can often feel isolated, confused, and alone. Grove House in Waverley Road, St Albans, leads the way in offering free specialist care and support to patients and their families affected by cancer and life-threatening illness in St Albans, Harpenden and Decorum. To find out more about their services, or how you can become a volunteer, or make a regular donation, or leave a gift in your will, phone 01727 731 000. Or visit grove-house.org.uk.
For more on Radio Verulam Community Partners, go to radioverulam.com/community partners.
Good evening, you've just tuned in and you are listening to Bouche à Oreille Radio Verulam's monthly show for West Arts Francophone and Francophiles. We are here every third Thursday of the month from 9 p.m. to 10 p.m. for a show exclusively in French. Tonight we are talking about volunteering and getting involved with charities.
Oui, vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission mensuelle de Radio Verulam, tout en français. Ce soir, nous parlons de l'engagement humanitaire et des actions caritatives avec nos invités en studio et au téléphone. Mais avant de les écouter, c'est l'heure de notre rendez-vous mensuel avec Martin Clavier, qui est en ligne avec nous pour découvrir de nouvelles expressions françaises. Bonsoir Martin, comment allez-vous ?
Ça va bien. C'est un peu gris, mais ça va.
Alors, quelles sont les expressions que vous avez sélectionnées ce mois-ci?
Les expressions, en fait, j'ai contourné un petit peu l'exercice, puisque donc aujourd'hui, c'est l'engagement caritatif. Et on s'aperçoit que des expressions, bon, il y en a bien quelques-unes, mais il faut préciser certaines choses à propos du mot caritatif. Hein. Le mot caritatif, ça vient de caritas. en latin, qu'on a l'habitude de traduire par charité, mais en fait c'est plutôt on retrouve parfois la traduction de cherté, c'est-à-dire quelque chose qui tient à cœur.
Ah, d'accord.
Alors, dans les religions, c'est vrai que la charité, c'est quelque chose d'important. Pour les chrétiens, c'est ce qu'on appelle une des trois vertus théologales avec la foi et l'espérance. Hein. Et pour Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien, c'est l'amour de Dieu et du prochain.
D'accord.
Alors, la charité, on s'aperçoit que c'était souvent le nom donné en France à certains hôpitaux.
Oui.
Qui était tenu par des religieux, on appelait ça une charité.
Oui, c'est vrai.
Un peu comme aujourd'hui, il y a les Restos du Cœur. En anglais, j'ai découvert ça, que le mot care, c'est le soin, c'est la même étymologie que ça vient de caritas.
D'accord, c'est intéressant hein? Ça.
En général, quand on parle de charité, évidemment, on pense tout de suite au bon samaritain, c'est-à-dire le secours désintéressé, hein, sans rien attendre en échange.
Ouais.
Et la charité, j'ai vu que souvent, c'est représenté comme une jeune femme donnant le sein à des nourrissons, ou même dans la peinture de la Renaissance italienne, on représente parfois la charité par une jeune femme qui donne le sein à un vieillard.
Oh. Ah, alors ça, c'est pas commun, par contre.
Oui. Un vrai don de soi.
Non. J'ai vu aussi, même dans les rituels maçonniques, on parle aussi de la charité. Et là, on la représente parfois par un pélican qui nourrit ses petits. C'est ça ce qui symbolise la charité. Alors,
on s'aperçoit que
le mot charité, il a évolué parce que, comme c'est vraiment lié à une pratique religieuse, souvent, on a eu, ou à une relation d'inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit, le mot a tendance à disparaître du vocabulaire administratif. Aujourd'hui, on parle de l'action sociale ou de la solidarité, même si je crois qu'en Angleterre, on dit toujours les charities.
Tout à fait.
Hein, les associations qui s'occupent de ça.
Mmh.
Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Pour l'islam, évidemment, c'est un des trois piliers de l'islam. Hein, c'est l'obligation pour tous les musulmans de donner, s'ils le peuvent, 2,5% de la valeur des biens d'une personne.
Je savais pas que c'était quantifié comme ça.
Et chez les juifs, c'est aussi une chose importante, hein, le mot signifie justice et droiture, et il y a même des spécialistes, des prêtres juifs qui voient 8 niveaux dans la charité selon les liens qu'il y a entre celui qui donne et celui qui reçoit.
Donc il y a une hiérarchie en fait de l'altruisme.
Oui, j'ai trouvé ça. Il y a 8 niveaux. Alors si c'est le père et le fils, si c'est quelqu'un qui donne à quelqu'un qui doit, ou
etc. Ah oui, selon les liens, d'accord.
Un mélange.
Ah,
alors sinon, j'ai trouvé là pour Nietzsche et Michel Foucault par exemple, la charité c'est un rapport de pouvoir, c'est un acte de répression économique et morale.
Ah, donc c'est complètement l'inverse, en fait.
C'est l'inverse. Mais, j'ai cherché un petit peu des proverbes. Alors, j'ai trouvé « Mieux vaut la charité plein la main que des biens plein le four ».
C'est pas mal, ça.
Il y a évidemment le proverbe auquel on pense souvent, qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même
».
C'est-à-dire que c'est une façon de justifier l'égoïsme. Hein, c'est pas du tout une vérité.
Voilà, tout à fait.
Et puis, pour terminer, j'ai trouvé Rousseau, une citation de Rousseau, qui dit « La feinte charité du riche n'est qu'un luxe de plus. Il nourrit les pauvres comme des chiens et des chevaux. »
Ouais, c'est... c'est...
Donc Rousseau, lui, il n'y allait pas.
Il n'y allait pas, oui, avec le dos de la cuillère, comment on dit?
Avec le dos de la cuillère, pour reprendre une autre expression.
Mais alors, avec les chevaux, il connaissait peut-être... C'était peut-être une prédiction sur le scandale des lasagnes Findus. Hein,
c'est vrai, là, qu'en ce moment, en France, ça fait la une de tous les
jours. Ça fait la une.
Les Anglais ont découvert qu'ils manger du cheval sans ouais, savoir.
Exactement.
Tout à fait.
Ben écoutez, c'est encore, encore passionnant, comme d'habitude.
Merci donc, beaucoup.
Merci beaucoup, oui. Martin. Et puis, ben, au mois prochain, alors.
Oui, au mois prochain.
Merci, bien, Martin.
Merci. Allez.
Au revoir.
Au revoir. Et si vous désirez donc nous suggérer des expressions pour cette rubrique ou si vous voulez en savoir plus sur certaines expressions qui vous intriguent, envoyez-nous un courriel à bouche-à-oreille@radiovarilum.com ou mettez un message sur notre page Facebook ou sur notre blog. Voilà.
Super. Alors, il me semble qu'on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, Mélanie.
Exactement, c'est-à-dire la solidarité et l'engagement volontaire et caritatif. Donc, même si les notions de solidarité, altruisme, engagement humanitaire, volontaire et caritatif sont à la fois belles, universelles et fédératrices, on a quand même parfois le sentiment de beaucoup de bonne volonté, mais de peu d'action. Ce qui n'est évidemment absolument pas le cas de nos invités de ce soir.
Non, tout le contraire, tout le contraire.
Absolument. L'idée de ce thème nous est venue et le résultat donc d'un sentiment qu'en Angleterre, à la différence de la France où, hormis le Téléthon grande cause nationale, les actions caritatives nous semblent plus discrètes. Donc, en Angleterre, l'implication caritative est omniprésente dans le quotidien, comme à l'école, au travail, etc., comme avec l'appel de fonds ou fundraising, que l'on appelle ici, lors de soirées thématiques, un sponsoring d'événements sportifs. Ici, comme tu le sais, hein, on sue pour une cause.
Pas tout
pour
à rien, fait.
Hein. Et également à travers l'association des professeurs et des parents d'élèves. Pour celles qui ont, évidemment, celles et ceux qui ont des enfants. Pourtant, il serait vraiment trop réducteur de dire que cette spécificité anglo-saxonne existe pour pallier un système étatique déficient. Même, bien sûr, s'il doit y avoir une part de vrai dans cela. Serait-ce un héritage solidaire des guerres, de la vie insulaire, mais aussi culturelle ? La réponse est probablement multiple et il faudrait, à mon avis, plus d'une émission pour y répondre.
Mmh, ça serait un bon thème, d'ailleurs. Ça serait un très bon thème.
Néanmoins, il n'en reste pas moins que sans le fundraising, certaines structures ne pourraient absolument pas fonctionner pleinement. Et c'est à travers les engagements de nos invités que nous avons voulu approfondir cette question.
Et nous sommes vraiment ravis de les accueillir.
Absolument.
Alors, avant de nous entretenir avec nos invités, je vous propose d'écouter un hommage musical à Sœur Emmanuelle, cette icône du don de soi et de l'humanitaire. C'est bien sûr Calogero avec Yala.
Welcome back to Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly French show. Tonight we are talking about getting involved with charities with a number of members from the West Arts French-speaking community. It is all in French until 10 p.m.
Rebonsoir, vous êtes bien sûr Bouche à Oreille. Et c'est l'heure maintenant de retrouver notre première invitée, Kathleen Collier-Granier, qui est dans le studio avec nous et qui va nous parler de son expérience et de son engagement caritatif. Bonsoir Kathleen.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venue sur Bouche à Oreille ce soir.
De rien.
Alors, parlez-nous un peu de la jeunesse de votre engagement. Il me semble que ça a un rapport avec une amitié qui remonte à 1991,
c'est
bien ça ?
Oui, c'est vrai. Mon amie Barbara et moi avons été amies pour plus de 20 ans. Mm-hmm. Nous nous sommes rencontrés à camp de vacances dans le Maine, en Amérique, où nous étions tous les deux des monitrices. Et après cela, nous avons partagé un appartement à New York pendant un an. Et 20 ans après, elle habite à Paris, je suis à Londres et nous restons les amis.
Super, donc c'était fun ça, New York. Vous étiez dans un grand appartement,
Dans
la série
Friends. Oui, très bien. C'était une rêve. Au revoir, j'en rêve. C'était bien. Ouais.
D'accord. Et alors après, comment s'est développé donc votre engagement?
Oui, c'est à cause de... j'ai voulu faire le bicyclette entre Londres et Paris. Et elle est... directrice présidente d'une association qui s'appelle Sanctaba. Mm-hmm. Et nous avons décidé de faire le tour, les bicyclettes pour cette association.
C'est un peu
excusez-moi.
C'est vrai que c'est très difficile à dire, cette association. D'accord.
Ouais, ouais.
Et alors, quel est le but de cette association?
Les objectifs de
l'association
sont de soutenir les projets de village de Niogin au Burkina Faso dans le domaine de l'éducation, du développement d'activités génératrices de revenus pour les femmes, de l'eau et soutien au groupement des jeunes du village.
D'accord, donc tout un ensemble de mesures.
Développement local. Ouais. Oui, c'est vrai.
D'accord. Et alors, comment est-ce que vous avez été amenée à vous impliquer dans cette cause?
Barbara connaît ce village depuis plus de 15 ans.
D'accord.
C'est une amie qui avait fait un projet de scout qui l'a fait découvrir ce village. Ensuite, sa famille a soutenu la scolarité d'un jeune qui est maintenant adulte. Elle n'est jamais perdu le contact avec le village et nous avons décidé de fonder une association pour les aider en 2004.
Fantastique, c'est fantastique ça. Donc c'est votre amitié qui a aidé à générer cette association.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ça c'est beau.
Hein.
Ça
ouais,
c'est vraiment
vrai,
beau.
C'est vrai.
D'accord. Et alors, parlez-nous un peu de votre initiative et de ce que vous allez faire, de cette course à vélo.
Le course à vélo, c'est Londres-Paris. Nous partirons le 17 mai, London à New Haven, Londres à New Haven.
D'accord.
Ça fait presque 100 kilomètres.
Bah, dis donc.
Oui, c'est vrai. En tout, on va faire presque 274 kilomètres.
Oh.
C'est bien. C'est beaucoup.
Ça va muscler les jambes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va prendre 4 jours.
Et vous êtes toutes les deux?
Ah oui, les deux et peut-être un collègue de mon mari.
Ah,
qui vient. Oui, aussi. Et peut-être les amis à Paris qui commencent à Dieppe.
Et d'accord.
Vous rejoindre.
Qui sait, après cette émission, vous allez
vous
trouver très nombreux.
Voilà, c'est ce que j'allais demander. C'est en fait.
Des centaines de personnes.
J'imagine. C'est l'occasion de demander si vous voulez que certains se joignent à vous dans cette aventure. De toute façon, on donnera vos.
Mais avec plaisir. Avec plaisir. Tout le monde est bienvenu.
D'accord.
Bon, Aline. Tu es prête?
Oui, alors va falloir quand même que j'aille m'entraîner un petit peu à la gym, je pense.
Moi également.
Alors, mis à part, évidemment, à mon avis, un corps de rêve, qu'est-ce que cette expérience va vous apporter? Vous allez être super musclée, en forme,
bien
et à part
sûr.
Ça...
Et ça, c'est la première chose. Mais après c'est la chance de faire quelque chose de bien pour Niogan, Burkina Faso, quelque chose de bien pour les autres.
D'accord. Oui. Vous avez l'intention d'y aller à Niogan?
J'espère. Barbara est allée là plusieurs fois, presque tous les ans.
D'accord.
Et non, je voudrais aller là, bien sûr, ouais, pour voir les choses avec l'argent.
D'accord. Ouais. Et alors, si les gens veulent vous aider, qui contacter? Quel contact prendre si on veut vous sponsoriser?
La meilleure chose est faire une donation sur ma page Facebook.
D'accord.
C'est Kathleen Collier-Granier.
D'accord. On mettra de toutes les façons les coordonnées sur notre blog.
Parfait.
Et comme ça, les auditeurs pourront bien sûr... Vous contacter,
merci
peut-être aller faire du vélo avec vous et puis au moins vous donner des dons. Alors, on vous souhaite vraiment un bon entraînement.
Merci beaucoup.
Et puis tenez-nous au courant parce qu'on aimerait vraiment vous inviter, vous ainsi que Barbara, en mai peut-être, au moment de votre course, pour que vous nous disiez un peu, surtout combien d'argent vous avez réussi à récolter.
Avec plaisir.
Voilà, merci beaucoup Kathleen d'être venue.
Merci.
Et à très bientôt.
À
très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Show on Radio Verulam is with you on Saturday mornings between 9 a.m. and 1 p.m. Join Derek Staines and Stephen Hall as they flash you back, value discs, have a brief biog, and interview the stars. We also allow SJH to ramble down Nostalgia Lane. It's all on the premier oldies show here on 92.6 FM. The Solid Gold Music Show, sponsored by DockGuard of Luton.
Welcome back on Bouche à Oreille, Radio Verulam's monthly show for West Hearts, Francophones and Francophiles. Like every third Thursday of the month, we are on air until 10 p.m. exclusively in French. Tonight, we're talking about volunteering and getting involved with charities.
Rebonsoir sur Bouche à Oreille. Après Kathleen, nous recevons Anne-Rose. Bonsoir, Anne.
Bonsoir.
Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Je sais que c'est un grand sujet.
Ma grand-mère maternelle était normande et un de ses fils, mon oncle, est décédé en 1944 à l'âge de 20 ans en combattant en Birmanie. Avec lui était son copain James Lumley, père de la comédienne Joanna Lumley, et un soldat népalais. Les trois familles sont restées en contact. En 2009, nous avons demandé au monsieur népalais si son village avait besoin d'aide. Il nous a répondu qu'il voulait faire bâtir une école. Alors, Joanna Lumley et ma famille avons fourni les fonds.
C'est fantastique comme jeunesse.
C'est une belle histoire, hein? Ouais. Et donc, le but de l'association, c'est d'être dans... pardon, excusez-moi. Quel est le nom, pardon, de cette association, donc?
Le nom, c'est Hands Together Tipliang Project. C'est le nom de l'association caritative que j'ai fondée en Angleterre, qui est jointe à celle que ma sœur a fondée en Australie.
D'accord.
Et Tipliang est le nom du village népalais du camarade de mon oncle.
D'accord. Et donc, le but de cette association?
C'est de fournir l'école de livres, cahiers, jeux pour les petits, crayons, peinture, instruments de musique, etc.
D'accord.
Oh, fantastique.
OK. Et donc, vous leur fournissez quoi d'autre aussi? Les uniformes, c'est ça, vous m'aviez dit?
Oui.
Qui sont obligatoires, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Vous m'en aviez parlé. Vous financiez également, on en avait parlé ensemble, il n'y a pas simplement du matériel, mais vous avez aussi des personnes qui travaillent pour vous dans cette association sur place.
Oui, nous fournissons les salaires pour pour deux professeurs. Mm-hmm. Et nous avons une dame qui aide les enfants à l'enseignement de l'hygiène.
Oui, vous me disiez, voilà, tout ce qui était, on en avait parlé un petit peu avant, et tout ce qui était le maintien de l'hygiène, mais également leur enseigner les techniques d'hygiène, hein,
voilà.
C'est ça, si je me souviens bien. Et voilà. Donc, votre rôle dans l'association, quel est-il à vous, votre rôle propre à vous?
Avec deux collègues, nous procurons les fonds et nous communiquons fréquemment avec notre lien bilingue qui est sur place pour assurer la dépense prudente des fonds.
Et d'où vous viennent ces fonds, Anne? Ce sont des particuliers qui font des dons, ou est-ce que vous travaillez avec des entreprises ou...
Ce sont des particuliers.
D'accord.
Et aussi, nous avons organisé quelques fêtes. Joanna Lumley, par exemple, est venue au théâtre à St. Albans.
D'accord.
Et elle a donné une soirée.
C'est fantastique. C'est, je pense que ça doit être aussi un avantage d'avoir un nom aussi célèbre que Joanna Lumley pour vous aider pour votre parrainage. C'est fantastique.
Et sur place, ça concerne combien d'enfants
Il y avait 90 enfants à l'école, mm-hmm. mais depuis que nous fournissons un repas par jour, il y a maintenant 140 enfants.
Ah, ça c'est super. Et vous me disiez que les projets à venir, on en avait parlé un petit peu, c'était le fait de pouvoir avoir les enfants un peu plus longtemps, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il serait bon d'agrandir l'école pour accueillir les enfants jusqu'à la fin de la seconde, parce qu'actuellement les cours cessent après la quatrième.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de fonds.
Hein? Voilà, exactement.
Alors, comment fait-on pour si nos auditeurs veulent vous aider dans votre association, vous donner des fonds?
Alors, vous pouvez aller sur le site mm-hmm. Hands Together, en un seul mot, www.bushaorei.org.uk.
Parfait.
Voilà. Donc en plus des soins, enfin de l'éducation, du maintien d'hygiène, il y a également des soins médicaux qui sont prodigués. Hein. Voilà. On n'en a pas parlé ce soir, mais il y a plein plein de choses et vous retrouverez toutes les infos sur le blog.
D'accord.
Et le site web. Merci beaucoup Anne.
Merci beaucoup Anne. En tout cas, c'est une superbe initiative et on mettra tous vos détails sur le blog.
Et encore une fois, une histoire d'amitié.
Ouais, c'est il y a un thème, un thème récurrent. Fantastique. Merci.
Voilà. Merci bien.
Donc, et pour terminer donc sur ce thème passionnant, nous recevons maintenant Rebecca. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, de quelle association caritative allez-vous nous parler?
Je travaille pour une organisation caritative qui s'appelle ECHO. Donc, ça veut dire Evelina Children's Heart Organization.
Ok, donc plutôt une sur le champ médical.
Oui, l'organisation donne un soutien aux familles qui ont les enfants avec les problèmes cardiaques et qui se trouvent à l'hôpital Evelina à Londres.
D'accord. Et comment est-ce que vous avez été amenée à vous impliquer vous-même dans cette association?
En fait, je travaille depuis juin l'année dernière, mais je connais cette organisation depuis 9 ans, depuis la naissance de ma fille. J'ai les filles jumelles. Et une de mes filles est née avec la cardiopathie congénitale. On ne savait pas. C'était en cas d'urgence. On ne savait pas du tout. Avant, ce n'était pas un diagnostic en grossesse. Et à 2 semaines, elle est devenue malade. Et on est amené à Evelina, à Londres. Et s'est fait opérer 2 fois. Et puis, elle va très, très bien maintenant.
Ah, bah ça, c'est...
Ça c'est l'essentiel. C'est fantastique.
Donc, bon, on a bien compris que c'est un événement familial et personnel qui vous a amené à vous impliquer. Et quel est votre rôle aujourd'hui et quelles sont les initiatives que vous mettez en place dans cette association?
Ce que je fais, souvent beaucoup de gens qui travaillent dans les organisations caritatives, je fais un peu de tout.
Polyvalente.
Polyvalente, exactement. Et j'organise les événements, donc une conférence pour les familles chaque année, pour faire au courant avec tous les développements cardiaques pour les enfants, et aussi pour dans les activités pour les enfants pour toute la journée.
D'accord.
La conférence se trouve normalement dans les environs de Londres, parce que la plupart des familles se trouvent autour de Londres pour nous. Et j'organise aussi la fête de Noël. Donc, en décembre l'année dernière, on avait 500 personnes pour la fête.
Oh, waouh!
Waouh! Ça devait être une belle fête, alors.
Oui, c'était assez...
stressant, on dirait, non?
Non, en fait, je me suis très, très bien amusée. C'était super. On avait à peu près 80 familles. Et on avait aussi un message en vidéo de Mr. Maker. Mr. Maker, vous connaissez peut-être?
Oui, alors nous, oui, les anglophones du West Arts, à mon avis, connaissent par cœur. C'est peut-être nos Français qui connaissent un peu moins. C'est un programme sur...
CBeebies,
avec un monsieur, voilà, un animateur qui s'appelle Mr. Maker et qui fabrique plein de choses. Donc voilà, il est très, très, très renommé.
Voilà, il est ambassadeur pour notre organisation caritative. Donc, il parle pour nous des fois.
Ah, ça c'est aussi, comme on disait avec Joanna Lumley, ça doit être aussi important d'avoir aussi quelqu'un qui a une célébrité, ça, c'est aussi porteur du message et ça permet de véhiculer le message un peu plus facilement. Et pouvez-vous nous dire ce que vous a apporté cette expérience personnellement, enfin, le fait d'être impliqué dans un acte caritatif, d'être, qu'est-ce que vous en ressortez au bout? Enfin, j'imagine plein de choses forcément avec votre histoire personnelle, mais le fait d'aller plus loin, parce que d'autres personnes se seraient arrêtées. Vous avez continué.
Oui, oui. En fait, j'aimerais bien soutenir les gens comme moi j'ai reçu le soutien quand ma fille était très petite et très malade. Et au niveau de motivation, il n'y a jamais du tout un problème pour travailler. Je travaille chez moi la plupart du temps. Je vais à l'hôpital une fois par semaine. Et officiellement, je travaille à mi-temps. Mais selon mon mari, c'est un petit peu plus. parce que pour moi, je comprends très bien la valeur de ce soutien. Mmh. Je comprends comment les gens qui, par exemple, ils apprennent à 20 semaines en grossesse, pendant la grossesse, qu'ils vont avoir un enfant avec une maladie. Mmh. C'est, on peut se sentir très isolé.
Oui, très isolé, tout à fait.
Et donc, j'ai au moins 20 bénévoles qui sont là pour répondre au téléphone, pour parler, pour comprendre comment on peut se sentir dans ces circonstances.
Oh, c'est magnifique. C'est très... Ça, beaucoup d'échanges, en tout cas, humainement, ça a l'air d'apporter beaucoup. Par contre, là, concrètement, pour nos auditeurs qui souhaitent donc contribuer et qui voudraient faire quelque chose pour votre association, qu'est-ce que vous leur conseillerez?
Nous avons, cette année, pour la première fois, nous sommes en train d'organiser un cours de 10 km. Ça se dit
une
comme
course.
Ça
une course,
merci.
Ouais.
Et il y aura lieu à Polson Lacey, en Surrey. En septembre, le 22 septembre. Et toutes les informations se trouvent sur notre site web. Mm-hmm. Le site web, c'est Eco-Evelina. Donc, je l'appelle.
Vous inquiétez pas, on le mettra sur le, on le mettra sur le site aussi. Ouais.
Très bien, merci. Et donc, vous trouverez toutes les informations pour donner les fonds. Merci. Pour soutenir la course de 10 km en septembre, vous avez le choix.
Ben, c'est gentil. En tout cas, merci vraiment beaucoup à toutes les deux de vos témoignages. C'était très, très gentil d'avoir répondu à notre invitation.
Tout à fait. Et puis, moi, ce qui me frappe dans tous vos témoignages, en fait, c'est qu'il y a au départ une expérience personnelle très forte, que ce soit la perte d'un proche ou une maladie, une épreuve pour un proche, ou dans le cas de Kathleen, c'était vraiment le début d'une amitié. Et je pense que ce qui est très beau, c'est que ça montre que nous sommes quand même humains.
Exactement.
Il y a vraiment un tissu humain au cœur de tout ça. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. On vous souhaite beaucoup de succès pour vos associations et on vous demande de garder le contact parce que si vous organisez des événements, etc., on se fera vraiment un plaisir de faire votre porte-parole auprès des auditeurs de Radio Verulam, pas seulement ceux de Bouche à Oreille, mais de tous les auditeurs de Radio Verulam aussi. Donc un grand, grand merci et on vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Hi, I'm Kathy Weston.
And I'm Lydia Elcourie.
Join us every Thursday evening on The Parent Show for expert interviews, local information about caring for children in West Harts.
And a What's On guide you just can't afford to miss. We're here every Thursday between 8 and 9 p.m. on Radio Verulam 92.6 FM.
Don't forget to tune in!
Community Radio in West Harts. Radio Verulam.
Welcome back on Bouche à Oreille, Radio Verulam monthly show for West Harts Francophone and Francophiles. Like every third Thursday of the month, we are on air until 10 p.m. exclusively in French.
Rebonsoir sur Bouche à Oreille. C'est maintenant l'heure de notre rubrique lecture. Et ce soir, nous avons la chance immense de recevoir Pierre Stas, qui est l'auteur de La Nuit Pacifique, récemment paru aux éditions Flammarion. Vous vous souviendrez peut-être que Pierre Connet, le mois dernier, nous avait fait un petit résumé de ce roman, donc récemment publié. Et nous avons maintenant Pierre Stas au téléphone, qui va nous parler un peu plus sur la jeunesse de son roman.
Alors, bonsoir Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, merci de m'avoir
invité. Non, on est très très contents. Vous êtes notre premier auteur à venir sur nos ondes. Alors,
on est très fiers. Oui, voilà.
Alors, Pierre Connet, en fait, nous avait parlé le mois dernier de votre roman, qui s'appelle donc La Nuit Pacifique. Et il nous en avait un peu, mais il nous en avait touché trois mots, on va dire. Il nous avait parlé du protagoniste Adrien et du fait que ça se passait en Thaïlande, etc. Et donc, on voulait vous poser quelques questions pour savoir, premièrement, ce qui vous avait inspiré pour écrire ce roman. Où avez-vous trouvé votre inspiration?
Alors, l'inspiration, c'est la conjonction de deux choses. C'est d'abord une rencontre
en France avec un homme qui faisait à peu près le même métier que mon narrateur, c'est-à-dire qu'il retouchait des photos.
D'accord.
Lui, je l'ai rencontré complètement par hasard, et c'est quelqu'un qui faisait des retouches, si vous voulez, pour des marques, donc des sociétés de shampoing, des agences de voyage, enfin, bref, vraiment le métier classique. Et il m'a raconté, moi ça m'a intéressé, parce que c'était vraiment, si vous voulez, lui, il a une agence avec des grosses machines de retouches de photos.
D'accord.
Et je lui ai demandé s'il avait déjà eu des clients un peu particuliers, hors normes, et il m'a dit que oui, une fois, une femme est venue le voir avec non pas des photos commerciales, mais des photos de famille.
D'accord.
Et elle voulait, en plus, à la fin de sa vie, retoucher la quasi-totalité de ses photos de famille pour faire disparaître une des personnes qui apparaissaient sur ces photos.
Ah.
Et j'ai trouvé cette histoire tellement forte que j'ai commencé à partir de cette anecdote, finalement, parce que j'en savais pas beaucoup plus, à tisser une histoire. Et c'est cette anecdote qui est venue rencontrer finalement ma fascination pour la Thaïlande où je vivais en 2011 et où j'ai compris que les deux histoires étaient liées, c'est-à-dire l'histoire d'un homme dont le métier est de retoucher les photos, de retoucher la réalité, et l'histoire d'un pays lui-même passe énormément de temps et consacre énormément de moyens et d'énergie à façonner son image officielle, l'image qu'il véhicule auprès des touristes du monde entier, et y compris auprès de sa propre population. La Thaïlande est un pays beaucoup plus intéressant et finalement plus fascinant que l'image un peu bête des cartes postales et des bars à prostituer.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est un très beau point de départ pour ce roman. Alors, justement, en parlant de Thaïlande et du fait que vous avez découvert des dimensions, on va dire, plutôt inconnues aux touristes, ce qui frappe dans votre roman, c'est le fait qu'on est quand même loin de la Thaïlande idéale, les plages, le tourisme, les gens obséquieux ou souriants. Il y a beaucoup de violence. Et je dirais une part d'ombre quand même dans ce pays. Est-ce que vous avez des sentiments ambivalents par rapport à ce pays ou...
Je ne crois pas. Je pense que j'ai des sentiments. Moi, si on me proposait de retourner vivre en Thaïlande, je n'hésiterais pas une seconde. Hein. C'est vraiment absolument fabuleux et d'une beauté incroyable. Mais si vous voulez, j'ai été un peu énervé par le simplisme dans le traitement de ce pays et j'ai été fatigué par les gens qui me disaient « Ah, la Thaïlande, c'est des belles plages, les Thaïlandais, ils sont gentils.
Ouais. »
Oui, il y a une part de réalité, mais la Thaïlande, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus dense. C'est, oui, beaucoup plus noir, beaucoup plus violent. Mais selon moi, c'est pas nécessairement négatif. C'est-à-dire que parler d'une réalité de ce pays... Je pense, en parlant de sa complexité et en partie de sa noirceur, donner une image plus vraie et plus intéressante, si vous voulez. Je n'allais pas faire un livre sur les plages et sur les femmes. Quoi. C'était pas mon rôle. J'ai pas du tout de sentiment ambivalent, ou alors comme j'en aurais vis-à-vis des autres pays dans lesquels j'ai vécu, la France, l'Argentine, le Canada. Pour moi, la Thaïlande est un pays à part entière et il ne faut pas en parler comme on parlerait, si vous voulez, d'un pays artificiel fait pour les touristes européens. Quoi. C'est vraiment
d'accord.
pas le cas.
D'accord. Donc, en fait, vous lui rendez hommage à cette Thaïlande en lui donnant un peu plus de dimension.
J'espère. J'espère.
D'accord. Là, c'est... Et pour ce qui s'agit du héros d'Adrien Verneuil.
Ouais.
Quel sentiment avez-vous par rapport à lui? Est-ce qu'il représente une part de vous-même ou est-ce qu'il est tout à fait fictif? Parce qu'il a quand même un lourd passé qui le hante, on va dire, dans le roman. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage-là et est-ce qu'il a un peu de vous?
Alors, sans dévoiler l'histoire, La Nuit Pacifique, c'est quand même l'histoire d'une vengeance... impossible d'un frère qui est traumatisé par la mort de sa sœur, décidé 20 ans auparavant et qui décide 20 ans après qu'il faut arriver à la venger d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Après, moi, je ne fais pas du tout d'autofiction. Je travaille sur de la fiction pure, mais je crois que chaque romancier met de lui dans les personnages. Moi, j'ai deux sœurs en très bonne santé, donc voilà, je ne suis pas du tout sur de l'autofiction. Mais j'essaye de créer des personnages auxquels je peux m'identifier dans leur, parfois dans leur manière de réfléchir, dans leur complexité, dans leur faiblesse. Je crois qu'il faut, il faut présenter des personnages avec toutes leurs facettes. Et souvent, je suis déçu quand les romans dressent des esquisses de personnages, mais tellement facile, tellement simple, avec des personnages bons et des personnages mauvais. Ouais. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que mes personnages aient des faiblesses, aient des défauts, aient des failles.
Un peu moins de manichéisme.
Voilà. Des gens un peu moins lisses, exactement. Un peu moins manichéens, exactement. Oui. Ouais.
Et plus intéressant, donc.
J'espère. Ça, c'est pas moi d'en juger, mais j'espère. Ouais.
Et alors, ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que vous êtes juriste de formation. En quoi votre formation de juriste a informé votre façon de façonner le roman ?
Ben, ça, c'est une question. J'aimerais dire qu'il y a un lien évident entre les deux. Je suis avocat en France. Je crois que mon désir de devenir avocat, c'est avant tout un désir de défendre les gens, de défendre les gens dans leur complexité, dans leurs failles, dans leurs faiblesses. Et lorsque j'écris et que je crée des personnages, j'essaye aussi de créer des personnages qu'on a envie d'aimer pour leurs défauts. Je suis persuadé que dans chaque histoire intime que les romanciers racontent, pas que moi, il y a une part d'universel. Moi, en tant qu'avocat, j'allais dire ma part d'avocat quand j'écris, c'est la part en moi qui veut défendre chacun de mes personnages. Les montrer, certes, avec des défauts, avec des limites, mais en même temps, qui vise à rendre le lecteur plus humain, quoi.
D'accord. Bah, c'est une très belle note sur laquelle...
Une
belle conclusion pour cet entretien. On vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints sur Bouche à Oreille.
Ah, c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir.
Et j'aimerais juste, pour conclure très très rapidement, vous demander à qui vous recommanderiez ce roman.
J'aimerais le recommander aux gens qui, lorsqu'ils lisent, veulent se plonger dans un univers de manière totale, ne pas avoir à se demander quel est le rôle de l'écrivain là-dedans, qui veulent une fiction totale.
D'accord. Parfait. Eh bien, on vous remercie.
Merci beaucoup.
Et on vous souhaite une très bonne continuation.
C'est moi qui vous remercie. J'espère à bientôt.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Community Radio in West Hearts. Radio Verulam.
C'est déjà l'heure de nous quitter.
Non, c'est pas vrai.
Bah si, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et encore un grand merci à nos invités, Kathleen, Anne et Rebecca. Oui, bien sûr, à Martin Clavier, qui, comme d'habitude, nous a régalé de l'origine d'expression française.
Tout à fait. Et puis, on veut aussi remercier Pierre Stas pour son intervention. On a été très, très contents de l'accueillir. Et on espère avoir d'autres auteurs qui viendront nous rejoindre sur Bouche à Oreille.
Absolument. Faites-nous part de vos réactions, de vos impressions ou de vos suggestions par courriel à Bouche à Oreille, en un seul mot, @radioverulam.com ou sur Facebook www.facebook.com/RV Bouche à Oreille en un seul mot.
Voilà, donc toutes les informations dont nous avons parlé ce soir seront disponibles sur notre blog et les podcasts des émissions de septembre, novembre, décembre et janvier y sont désormais disponibles.
Yes.
Alors là, c'est vraiment fantastique. Il nous manque toutefois celle d'octobre, donc si quelqu'un l'a enregistrée, Faites-nous signe, voilà.
Oui, et donc, pour terminer, la prochaine émission sera le jeudi 21 mars et nous nous quittons en musique. Alors, au revoir.
Au revoir.